Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Oui, c'est notre motto ici, alors nous en sommes à l'édition du 4 mars 2010, et puis cette semaine, nous allons parler d'un tas de sujets. Bon, on va essayer de couvrir différentes affaires, donc je vais vous montrer un peu ce qui est sur mon bureau, et puis après ça, ben, on verra ce qu'on a le temps de couvrir dans l'émission. Alors, j'ai les dossiers du Pakistan, d'Israël, de l'Iran, Irak, j'ai l'économie que j'aimerais toucher, évidemment le Climate Gate, le réchauffement climatique, l'Afghanistan, et puis évidemment l'actualité que je vais couvrir pour certains. Alors, allons-y, on va y aller au hasard. Alors, on va tirer, tiens, je sais que le Pakistan, ça va être assez rapide, il n'y avait pas beaucoup de choses cette semaine, alors le Pakistan. Avant de commencer, tiens, je vais vous faire part d'une affaire, et puis après ça, on va y aller avec le Pakistan. Vous savez, il faut faire attention, il faut tout le temps rester critique par rapport à tout ce qu'on reçoit comme information. Que ça vienne de qui que ce soit, je veux dire, réellement, là, même si c'est des universitaires ou n'importe quoi, là, que ce soit à la radio, à la télévision, que ce soit ici à l'autre monde. Il faut tout le temps aller vérifier les choses par soi-même. On peut se tromper, mais aussi, il y a beaucoup de désinformation, de propagande. Et il y a environ 2 semaines, il y avait un courriel qui circulait ici pas mal au Québec, là, assez pour que plusieurs organisations juives et musulmanes, palestiniennes, s'en aperçoivent. Et puis, ce courriel qui circulait disait grosso modo qu'on avait mené un mariage de masse dans la bande de Gaza, et puis que c'était vraiment répugnant et très grossier, et que, bon, ça l'écœurait, quoi. Et dans le courriel, on nous montrait des photos en nous disant qu'on avait marié des jeunes filles, des fois même de 10-12 ans, à des hommes, et puis que, bon, elles étaient victimes d'inceste et puis de viol et toutes sortes d'horreurs comme ça. Et après ça, ben, on nous demande de réagir, de condamner ça, sauf que ce qui se passe, c'est qu'en réalité, si vous recevez ces types de courriels-là, et puis après ça, vous les faites suivre sans vérifier réellement les informations, ben vous risquez finalement de propager de la propagande haineuse, diffamatoire, sans fondement. Alors, ce qui s'est passé, j'ai fait quelques recherches auprès de sources fiables, là, qui sont directement sur le milieu, et puis... Écoutez, il s'agit en réalité de ce qu'on parlait dans ce courriel-là. Il s'agissait d'un mariage qu'on a fait en réponse aux attaques israéliennes qui avaient fait 450 victimes parmi les civils dans la bande de Gaza. Et puis, on a voulu montrer que les personnes qui habitent dans la bande de Gaza continueraient quand même de vivre leur vie, puis de ne pas vivre dans la terreur, même si on essaye de les y pousser. Et puis, en réponse à ce... C'est 450 personnes qui sont décédées. Bon, on a décidé de faire 450 mariages. Et puis, dans la culture arabe, musulmane, ce qui se passe, c'est que dans les mariages, c'est culturel. Les femmes sont séparées des hommes. Alors, les femmes célèbrent une place et puis une autre party avec les hommes. Et puis, les jeunes fillettes qui étaient là étaient des demoiselles d'honneur. Alors, c'était complètement faux d'assumer que ces jeunes fillettes-là étaient mariées à des hommes et puis que la culture musulmane cautionnait ça, donc était d'accord avec ça. Alors, beaucoup de propagande et puis évidemment que la question se pose à savoir d'où ça vient. On ne sait pas, sauf qu'il est évident que la motivation derrière est de démoniser évidemment la culture musulmane et puis les Arabes en général. Donc, faut faire attention, je voulais vous parler de ça. Donc, on va y aller avec le Pakistan. Bonne nouvelle qui est sortie cette semaine. Il y a le premier ministre indien, comment il s'appelle lui, Manmohan Singh, qui a déclaré samedi dernier que l'Inde était prête à parler avec le Pakistan, incluant sur des sujets difficiles comme le Cachemire. Alors, vous avez souvent entendu parler de ces conflits-là qui existent entre ces deux pays. Alors, on aimerait, M. Singh a déclaré qu'il voudrait discuter de tous ces problèmes-là qu'on a réglés avec l'Inde et puis entre le Pakistan et l'Inde, dans une atmosphère libre de terreur. Alors, ça a été rapporté par The Press Trust of India. Alors, évidemment, une étape très positive dans tous ces pourparlers-là en deux pays qui y ont souvent des tensions en réalité, hein, vous savez. Donc, on va espérer que on va avoir une réponse aussi favorable du Pakistan. Vous savez, ces deux pays qui sont armés de façon nucléaire. Alors, on a tout à gagner de la paix, de la coopération de ces deux pays-là. On a appris aussi dans une autre nouvelle que les Américains vont dépenser 50 millions de dollars dans les médias au Pakistan. Alors, c'est l'administration Obama qui a annoncé cela. Alors, on va investir 50 millions de dollars dans les médias pakistanais pour essayer de renverser la vapeur sur les sentiments anti-américains et puis essayer de monter la conscience dans des projets qui sont développés par les États-Unis, qui sont dirigés supposément à améliorer la qualité de vie. Alors ça a été confirmé à Washington et puis on se demande encore là quand ça se fait qu'on va dépenser 50 millions de dollars dans les médias pakistanais. Est-ce que ces gens-là sont en train de virer fou, hein? Peut-être que on pourrait faire de quoi de mieux si on essayait, au lieu de détourner l'attention de l'opinion pakistanaise, 50 millions de dollars-là vont être dépensés dans une forme de propagande pour embellir l'image des États-Unis. Alors, pourquoi faudrait embellir l'image des États-Unis? Ben, vous savez, les États-Unis n'ont pas cessé de larguer des bombes de drones depuis même le premier jour que Obama est rentré en fonction et on a tué des quantités de personnes innocentes. Alors, il n'y a aucun média dans le monde qui peut défaire, hein, qui peut renverser l'image que les Pakistanais sont en train de se faire des forces américaines et défaire cette image qui a été bâtie à cause des dommages réels physiquement, psychologiquement, mentalement, spirituellement qui ont été causés à ce peuple. Alors, on devrait utiliser cet argent pour l'éducation, pour la nourriture, la médecine, inciter le gouvernement pakistanais à améliorer les infrastructures. Et puis là, probablement que les gens auraient une meilleure impression, une meilleure image des États-Unis. Alors, on ne va pas effacer des actions qui ont été meurtrières, qui ont été très dommageables pour le peuple pakistanais et qui continuent de se perpétrer, OK? Donc, on largue des bombes comme ça dans des zones civiles, on tue des personnes qui étaient complètement innocentes là-dedans. Et puis, c'est évidemment la cause de la mauvaise image que les États-Unis ont dans ce pays. Alors, à un moment donné, peut-être qu'on pourrait utiliser cet argent-là de façon plus logique. OK? OK, donc allons-y maintenant avec l'Iran. L'Iran, ça bouge encore beaucoup. Il y a énormément de choses qui se passent dans l'actualité. Et puis, j'ai de la misère à tout couvrir. Alors, cette semaine, on va faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Iran. Alors, il y a les États-Unis qui ont déclaré, qui ont averti l'Iran qu'elle était en train de venir à court de temps et de patience. Alors, la dernière fois qu'on a entendu parler d'une phrase pareille, c'était quand on entendait cette rhétorique juste avant le début de la guerre, de l'invasion illégale de l'Irak. On dit que, de la part de Washington, des États-Unis, que on est en train réellement de s'impatienter, hein, et de manquer de temps, et puis que Téhéran devrait arrêter son programme de production d'armes nucléaires, alors que comme vous allez voir dans le reste des nouvelles, il n'y a aucune preuve que l'Iran essaie de se procurer ni de fabriquer des bombes nucléaires, OK? Et puis, c'est tout le temps un double standard dont je parle tout le temps parce qu'en réalité, depuis les années, du milieu des années 60, on sait que Israël, avec l'aide de différentes puissances comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, s'est procuré la technologie et puis des bombes nucléaires. Alors, on est en face d'un double standard. On veut interdire un pays qui n'est même pas en train d'essayer de faire ça, de même vouloir s'en procurer une au cas où, hein, s'il voudrait. Et puis, de l'autre côté de la clôture, on a une nation qui en possède et qui ils ont même aussi les moyens de les lancer sur un paquet de pays autour. Alors, possède des armes de destruction massive. On n'en parle pas et j'ai nommé Israël. Alors, des doubles standards. Donc, on voit un peu les mêmes rhétoriques qui réapparaissent, qui poussent pour une guerre contre l'Iran. Et vous savez, cette fois-ci, c'est un peu différent. On ne peut pas cacher les mensonges officiels qui ont été régurgités par toutes les grandes chaînes de médias juste avant le début de la guerre en Irak, alors qu'on avait utilisé des mensonges gros comme le bras en disant que l'Irak essayait de se procurer des bombes nucléaires, était lié au 9-1 et puis possédait des armes de destruction massive. Trois mensonges qui étaient consciemment connus, okay, des gens comme Blair, des gens comme Bush et compagnie. Et qu'on a quand même régurgité dans les médias sans broncher et qui finalement, comme je vous disais, étaient des mensonges conscients et honteux. Donc, c'est une guerre d'agression qui a été déjà punie par des tribunaux comme les tribunaux de Nuremberg et qui devrait être en fait aussi, réappliquée puis contraindre ces gens-là en cour. Vous savez, Blair a dû répondre à des commissions d'enquête un peu là-dessus et puis a témoigné, M. Blair, comme un vrai psychopathe, a déclaré que même avec les choses qu'on sait aujourd'hui, qu'il aurait fait la même chose. Bush a déclaré la même affaire aussi. Vous savez, Cheney, la semaine passée, il y a 2 semaines, a déclaré qu'il était pour le waterboarding, donc la torture. Alors, c'est vraiment des psychopathes, des gens qui sont des criminels de guerre à qui on a affaire. Et on essaie de réutiliser ces mêmes rhétoriques-là pour partir une guerre contre l'Iran. Alors, soyez bien conscients de ça. Sauf que, comme je vous disais, cette fois-là, on sait d'avance que ça va être encore d'autres mensonges pour partir une guerre non provoquée. Et cette fois-là, vous, la population, nous, on ne peut pas prétendre cette fois-là qu'on ne sait pas que le gouvernement américain, israélien, sont en train de faire et puis sont en train de réellement se préparer. Donc, on ne peut pas nier que là, on ne sait pas où ils s'en vont avec ça, que c'est encore des guerres de provocation, des guerres d'agression. Les États-Unis ont envahi 5 nations et puis là, on a ciblé la 6e. Alors, évidemment que on compte aussi le nombre de personnes qui sont mortes dans ces conflits-là, dans ces 5 nations-là, dans les millions. On parle de crimes de guerre qui ont été commis. On parle d'un génocide. C'est carrément une fraction de l'Irak qui a été tuée, de la population de l'Irak. On parle d'environ 4 à 5 % de la population qui a été tuée, au-dessus de 1 300 000 Irakiens qui ont perdu la vie directement causée à cause de cette invasion et occupation militaire de leur pays par les forces américaines et puis toutes celles qui ont participé. Et puis, ne vous comptez pas d'illusions, chers auditeurs, le Canada a aussi participé. On a été remercié même pour notre rôle, sauf qu'on avait demandé d'être classifié dans les nations non nommées, si on veut, donc les nations anonymes qui avaient aidé. Donc, on a aidé avec nos bateaux de guerre comme support technique à l'armée américaine. Donc, oui, on a participé à ça. Et puis, la guerre en Afghanistan est une guerre intégrante qui fait partie intégrante de la guerre en Irak. C'est une même guerre, c'est le même théâtre de guerre. Il faut arrêter de monter des faux mensonges d'un mur de division qui n'existe pas, OK? C'est vraiment la même guerre. Une même guerre qui s'étend au Yémen, qui s'étend au Pakistan et très bientôt en Iran. Aussi, une autre affaire qui est très différente de la guerre en Irak, c'est que l'Iran est un pays qui compte une armée très bien entraînée, qui n'ont pas peur de mourir, qui ont déjà combattu et qui sont sur leur terrain. OK, et vous savez que l'Iran aussi a deux maintenant très puissants partenaires, autant commerciaux que militaires, qui sont la Russie puis la Chine. Alors, oui, on peut parler d'un scénario possible de troisième guerre mondiale, et puis c'est pour ça qu'il faut suivre ces situations-là de très près. Et cette fois-ci, si une telle guerre partait, on peut de chef savoir qu'Israël et puis les États-Unis vont perdre. Ça, c'est très évident. Juste en ce moment, on est en train de constater. Il y a plusieurs généraux américains qui l'ont déclaré d'ailleurs. que la guerre est perdue en Afghanistan, ça c'est certain. Et puis en Irak, ben, si les Américains ont cessé ou en tout cas beaucoup diminué de mourir en Irak, c'est parce qu'on a carrément acheté l'opposition puis les groupes rebelles, les groupes de résistance. Alors on les a payés grossement, on continue de les payer, alors on a acheté la paix carrément. Alors tant qu'on donne des billets verts là-bas, ben, ça va aussi bien aller. Donc, voilà quelques petites réalités. On continue avec l'Iran. Alors ici, on a l'Agence atomique internationale qui a déclaré, écrit un billet, un rapport en confirmant que l'Iran ne produisait pas d'uranium, non, je sais pas d'uranium à des niveaux pour des fins militaires. Alors, ça, c'est des experts qui viennent de l'Agence nucléaire internationale qui a été publié dans l'agence de presse autrichienne. Et on a aussi une autre citation qui vient de la BBC, qui a été publiée par la BBC. On parle d'officiels militaires américains qui ont aussi déclaré, ont clarifié que l'Iran n'avait pas d'uranium assez enrichi pour produire des armes nucléaires. Alors, ça vient du directeur de la National Intelligence, Dennis Blair, qui a déclaré ça aux sénateurs américains. Alors, la vérité quand même à perdre, c'est juste que vous avez beaucoup de propagande qui essaie de vous faire croire le contraire, mais voilà les faits qui sont clairement étalés aussi, si on se donne la peine là, vraiment de comprendre ce qui se passe et puis de lire les bonnes sources. Ensuite, on a une nouvelle ici qui explique que l'Iran a décidé de mettre ses réserves nucléaires, alors tout son uranium, de le faire monter des hangars souterrains. Alors, vous savez, l'Iran a évidemment plusieurs bases souterraines très profondément enfouies pour résister aux bunker busters et aux attaques israéliennes et américaines. Donc, ce qui arrive là, c'est que cette semaine, l'Iran a décidé de ramener tout son stock nucléaire à la surface. Donc, ça a évidemment surpris les inspecteurs internationaux d'armement nucléaire et on comprend que ce mouvement, que cette décision est purement stratégique. Alors, on s'aperçoit que c'est très clair que si on était pour avoir une attaque surprise de la part d'Israël ou des Américains sur l'Iran et qu'on attaquait ces réserves d'uranium qui sont déjà stockées en Iran, eh bien que ça créerait une catastrophe à la Tchernobyl, c'est assez clair, dans le sens qu'à ce moment-là, on aurait toutes ces particules radioactives qui se répandraient partout au Moyen-Orient, tout dépendant de la direction des vents cette particulière journée qu'on attaquerait ces cibles iraniennes-là. Alors, l'Iran a décidé de ramener tout son stock à la surface et c'est évident que là, à ce moment-là, on comprend que s'il était pour avoir une attaque et que on détruirait ses centrales nucléaires pour produire de l'électricité, eh bien que l'entière région serait contaminée, puis ça pourrait condamner la région complète. Alors, on va y repenser à deux fois, surtout si on sait que bon, l'Iran, l'Irak, Pakistan, l'Afghanistan, Israël, c'est tous des pays qui sont en frontière avec l'Iran. Alors, ça pourrait créer une catastrophe assez grave. Et puis, sachez que quand on avait commencé l'offensive en Irak en mars 2003, après seulement 2 semaines, on avait commencé à mesurer des hausses très considérables, significatives de la radioactivité dans l'air en Angleterre. Okay? Donc, vous avez eu l'utilisation de bombes, de bunker busters qu'on appelle, et faites à base d'uranium appauvri, qui est radioactif. Et puis, quand ça explose, vous avez des fines particules radioactives qui s'en vont dans les airs. Et c'est pris par les vents et ça s'est ramassé en quelques jours en Angleterre. Alors, réellement, ne vous contez pas d'histoire, là. C'est que ces particules-là voyagent à grandeur du globe. Donc, un pensez-y. Vous avez Joe Biden, le vice-président des États-Unis, qui a déclaré que Israël avait un droit souverain d'attaquer l'Iran. Alors, M. Biden, qui est un déclaré sioniste ouvertement sur la scène publique, a déclaré lui-même, supporte Israël jusqu'aux confins de la plus folle terreur et puis la plus grande folie du monde en donnant le feu vert à Israël d'attaquer l'Iran, en disant que M. Biden dirait que Washington ne se mettrait pas dans le chemin d'Israël si Israël décidait d'attaquer l'Iran et puis ses installations nucléaires. Alors, parlant de loi internationale, il serait peut-être bon de mentionner qu'il n'y a aucun droit souverain pour une nation d'attaquer une autre nation sans provocation. Okay? Ça, c'est encore le principe des jugements de Nuremberg qu'on a établi après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Okay? Quand on a eu l'Allemagne qui a attaqué sans provocation un paquet de pays autour. Okay? Donc, on a jugé que ça, c'était le crime suprême international. Alors, ce que M. Biden déclare finalement, c'est qu'il vient d'encourager une autre nation à commettre le crime suprême international, une agression non provoquée d'une autre nation. Alors, M. Biden, qui est en train de faire la promotion de meurtre de masse, enveloppé joliment dans un drapeau et puis la Bible. Mais que vous enveloppiez ça dans un emballage aussi beau que vous voulez, ça reste quand même des meurtres et des meurtres de masse. Alors, voilà, une petite dose de lucidité. Il y a le temps aussi dans un article ici d'être Global Research, c'est très important à les lire, qui détaille comment que l'OTAN encercle militairement l'Iran, qu'on a environ 150 000 troupes sur 400 bases en Afghanistan, seulement juste là, OK? Donc après ça, c'est déployé aussi avec des actions au Pakistan et vous avez des troupes en Irak et un peu partout. Donc finalement, on se retrouve avec une situation où vous avez l'Iran qui est physiquement et militairement entouré. Et vous savez qu'avant même le 9-1, on avait déjà déplacé tout l'appareil militaire dans le golfe le Persique. On avait averti même les pays voisins, dont le Pakistan, qui était pour avoir des opérations militaires d'envergure en Afghanistan un mois avant les attentats du 9-1, qui étaient pour être utilisés après comme étant une justification que Ben Laden est en Afghanistan, que les talibans le protégeaient et que là, on devait attaquer le pays. Mais vous savez, pour préparer des plans de guerre comme ça militaire et puis déplacer de la machinerie aussi importante, ça prend non seulement de la planification sur plusieurs mois, des fois même des années, mais ça prend aussi des mois pour déplacer cet appareil militaire. Alors, rappelez-vous qu'un mois seulement après les attaques du 9-1, on était déjà rendu en Afghanistan et puis on avait pris contrôle militairement de ce pays-là. Donc, ce n'est pas des événements qui sont des coïncidences ou qui arrivent comme ça. Et si l'Iran est encerclé maintenant de troupes américaines sur un paquet de bases, on parle de centaines de bases américaines, de 400 à 600 bases selon les données que j'ai. Eh bien, c'est qu'on est en train de se préparer un conflit avec l'Iran, OK? On ne déplace pas et puis on n'investit pas autant d'argent si on n'est pas déjà en train de faire avancer un agenda qui est bien clair. On s'entend là-dessus? OK, donc on continue. Un article ici de AFP, les États-Unis qui accélèrent leurs missiles de défense dans le golfe Persique. Alors, une autre preuve comme quoi qu'on déploie tout l'arsenal militaire, on se prépare de quoi? Alors, on déploie des défenses contre une potentielle attaque de missiles iraniens. Alors, ce n'est pas les Iraniens qui vont attaquer en premier, ça c'est certain. À moins qu'on le fasse faire un genre de fausse attaque sous pavillon, OK? Donc, ce qui arrive, c'est qu'on prétend que c'est l'Iran. On lance un faux missile, on dit que c'est l'Iran, mais ce n'est pas l'Iran qui a fait ça. Et après ça, on va autoriser une guerre contre l'Iran. Mais c'est évidemment pas l'Iran qui a intérêt à attaquer en premier, parce que c'est très, 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 très clair que si l'Iran attaque du jour au lendemain, l'Iran va se tourner un grand stationnement de vitres vertes, OK? Parce qu'on va avoir tout simplement annihilé le pays au complet. Hein? Même Hillary Clinton avait déclaré dans les médias qu'elle était prête à anéantir l'Iran si l'Iran attaquerait Israël. Alors, c'est des choses qui se passent. Vous avez Sarah Palin aussi qui maintenant est pro-Israël à fond. Et puis, vous savez, aux États-Unis, pour se faire élire, c'est ce qu'il faut. Alors, elle a déclaré qu'elle serait prête à attaquer l'Iran pour n'importe quel prétexte. Donc, voyez les choses là hein, qui se passent. Et puis, on se prépare. Si l'Iran qui se faisait attaquer, qu'elle répliquerait. Je pense pas que l'Iran se laisserait attaquer comme ça sans répliquer. Puis même la Russie avait déclaré que si l'Iran était attaqué, que les Russes étaient pour prendre ça, considérer cela comme étant une attaque personnelle sur la Russie. Alors ça, c'est des choses qui sont publiées dans les médias de masse. C'est des choses qui sont du domaine public et puis qui sont très importantes à considérer. Vous avez le Sénat aux États-Unis qui a passé plus de sanctions contre l'Iran, donc encore plus de provocations. Et puis on voit aussi qui contrôle réellement la politique étrangère des États-Unis. Donc vous voyez évidemment que vous avez les American Israeli Public Affairs Committee, qui est l'IPAC aux États-Unis, qui est un lobby israélien très puissant et qui influence énormément la politique américaine étrangère, et qui a loué, qui a réellement remercié le vote et a appelé à plus de sanctions contre l'Iran, un groupe qui a d'ailleurs fait l'expression de son espoir que le bill, que le projet de loi qui a été quand même compromis d'une certaine façon, était pour être signé comme une loi bientôt. Alors, voyez un peu qui finance ces trucs-là et puis qui supporte ces trucs-là et qui, comme durant le cas de la guerre en Irak en 2003, vous aviez ce puissant lobby qui a poussé beaucoup de désinformation au sein même du gouvernement américain avec la fausse information, et dont M. Tchalabi et puis beaucoup d'autres. Et on a ainsi convaincu, on a orienté la politique américaine et on a fait en sorte que les Américains étaient pour attaquer l'Irak pour le bienfait d'Israël. Alors, c'était un ennemi d'Israël et non pas un ennemi des États-Unis. L'Irak n'avait jamais fait de rien aux États-Unis. Puis d'ailleurs, Saddam Hussein était un pion des États-Unis puisqu'il était sur la liste d'appel de la CIA. Il rentrait au pouvoir avec l'appui, puis l'aide de la CIA. Alors ça, c'est tous des faits historiques. Okay? Même les armes chimiques avaient été vendues par les États-Unis sous Donald Rumsfeld, qui était à ce moment-là responsable. Et puis, on a même des photos de ça sur Internet. Vous avez Donald Rumsfeld qui serre la main de Saddam Hussein dans le début des années 80, alors qu'on leur vendait à ce régime-là de Saddam Hussein les armes chimiques qui ont été utilisées après ça dans la guerre contre l'Iran. Alors, on a évidemment pendu Saddam Hussein assez rapidement pour pas qu'il révèle ces choses-là dans son procès. Donc, on a bâclé ce procès-là. On y a fait en sorte qu'on lui a fermé la bouche. On n'a pas pu entendre vraiment la version de Saddam Hussein. Et puis, après ça, on l'a pendu bien avant que M. Hussein raconte la vérité, à savoir qui l'a supporté, qui l'a mis au pouvoir, qui lui a donné ses armes chimiques. Et que le fait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, on savait ça depuis 1991. Et que Saddam Hussein ne cherchait pas à se procurer de bombes nucléaires. Alors, c'est un mensonge que M. Wilson, un agent de la CIA, avait même déclaré. On a révélé l'identité de sa femme. Donc, ça, c'est une félonie américaine. Des histoires incroyables se sont passées durant le règne de Bush. Et bien sûr, l'Irak n'a jamais participé au 9-1. OK? Donc, ça, c'est une évidence même que même Bush a admis publiquement. Donc, beaucoup de choses, hein? Alors, on continue. Barack Obama qui a accusé l'Iran d'essayer de produire une bombe nucléaire. Alors, M. Obama qui est un complet idiot, sous les termes de la non-prolifération nucléaire, l'Iran a droit de produire de l'électricité pour des buts pacifiques. Alors, pour produire de l'électricité, cela inclut des stations d'électricité, puis aussi des stations pour produire des isotopes médicaux. On sait que l'enrichissement de l'uranium à 20% est dans le respect des lois internationales et puis c'est ce qu'on a besoin pour l'usage médical. Alors l'Iran, avec ses actions, sont sous les termes légaux, okay, donc du traité de non-prolifération, du traité de la non-prolifération nucléaire. Et il y a aussi le fait que l'Iran a signé avec les États-Unis, ce traité-là, alors le même droit que les États-Unis. Alors pourquoi qu'on l'enlève ce droit-là à l'Iran alors que les autres pays qui ont signé ce traité-là possèdent ce droit? Alors évidemment, on parle encore là de double poids, deux mesures, hein? De deux poids, deux mesures, c'est tout le temps ce qui ressort de ces conflits, pseudo-conflits. Et il y a aussi le fait que sous ces accords-là, même les États-Unis devraient assister l'Iran pour construire ses stations d'électricité et puis ses installations de production d'isotopes médicaux, parce que ces deux pays-là sont signataires de ce traité de non-prolifération nucléaire. Alors, c'est vraiment des clauses qui sont incluses dans ce traité-là. Donc, il y a un paquet de trucs comme ça, vous savez, qui sont à considérer et puis qui vont faire comprendre que quand Obama déclare des affaires comme ça, il sait qu'il est en train de mentir et puis il sait qu'il est en train aussi de contrevenir à la Constitution des États-Unis et à différentes lois américaines. Vous savez, au tout début du mandat de M. Obama, il y a Hélène Thomas, qui est une journaliste aux États-Unis, qui avait demandé, j'en ai parlé, je pense, la semaine passée, qui avait demandé à Obama. Quelle était la seule nation au Moyen-Orient qui possédait des bombes nucléaires? Alors, il est assez clair que c'est Israël qui est la réponse. Et puis, Obama est au courant de ça, sauf qu'il a évité la question en déclarant toutes sortes d'affaires, mais finalement, en ne jamais répondant à cette question-là. Et la raison de ça est très, très simple. C'est que, comme j'en parlais, il y a un truc qui s'appelle aux États-Unis, qui s'appelle The Foreign Assistance Act de 1961, qui a été amendé par le Symington Amendment, section 669 de la FAA en 1976, qui bannit, qui interdit les États-Unis d'avoir des liens économiques et de l'assistance militaire avec un pays qui produit ou qui possède des bombes nucléaires et qui n'a pas signé l'accord de non-prolifération nucléaire. Alors, les États-Unis seraient dans l'illégalité en donnant 4 à 5 milliards de dollars d'aide économique et militaire à Israël à chaque année. Alors, c'est très, très important d'avoir ça aussi en tête. Il y a un ministre israélien, le ministre de la Défense, donc Ehud Barak, qui a déclaré que l'Israël n'avait pas besoin de coordonner avec les États-Unis pour une attaque contre l'Iran. Alors, de la part des États-Unis, on avait demandé à Israël que on les avertisse hein, si Israël était pour décider de commencer des attaques contre l'Iran. Et puis là, Israël vient de déclarer qu'on se réserve le droit d'attaquer l'Iran de façon unilatérale, sans même consulter et de coordonner quoi que ce soit avec les États-Unis. Dans une autre nouvelle, on a l'Iran qui accuse les États-Unis puis Israël d'avoir tué un scientifique nucléaire. Alors ça, c'est une nouvelle qui a fait la manchette il y a quelques semaines. Ça doit faire 3 semaines environ. Et on sait qu'Israël et puis les États-Unis, surtout dernièrement avec l'attentat qu'il y a eu à Dubaï, vous avez tout entendu parler, le Mossad qui s'est déguisé, qui utilisait des faux passeports pour assassiner une tête du Hamas. Alors on sait que ces programmes d'assassinat extrajudiciaire et extra-nation, hein, donc international, existent. Et il n'y a rien de surprenant là-dedans, à savoir que les États-Unis, Israël, et donc l'Iran, dit même avoir des évidences et des preuves de ça. Que vous avez ce scientifique nucléaire qui a été assassiné, un physiciste très important. Donc, des provocations encore là qui se produisent à l'intérieur même de l'Iran, donc c'est quand même assez effronté. Il y a les États-Unis qui se préparent pour un conflit possible, alors c'est une autre nouvelle ici que vous avez à consulter, ça vient de Mike Mullen, qui est chairman de Joint Chief of Staff, et qui est aussi qui a déclaré ça dans une apparition au Washington Institute for Near East Policy. Alors ça vient quand même de débouche de personnes qui savent un peu de quoi on parle là. Alors, quand on parle d'une attaque potentielle contre l'Iran, c'est réel, OK? Chers auditeurs, alors surveillez ça. Et puis la dernière, c'est l'Iran qui, dans des simulations secrètes qu'on a faites, des simulations par ordinateur, ça a été révélé par The Times Online. On a appris que dans ces exercices-là qui ont été menés par Tel Aviv, donc l'Université de for Institute and National Security Studies, qui a été publiée le mois passé, ont montré que s'il était pour avoir un commando d'attaque israélien sur les stations de production d'électricité nucléaire iranienne, que les États-Unis seraient évidemment aspirés dans ce conflit. Alors, on a compris dans ces exercices de simulation de guerre qu'il y avait un moyen de le faire sans que les États-Unis soient militairement impliqués dans le conflit. Mais comme je vous disais dans un autre article, on apprenait aussi que par contre, on avait trouvé qu'Israël perdrait probablement cette guerre. Bon, c'est peut-être pas des bonnes nouvelles, comme je disais, pour l'État hébreu. Concernant Israël, je vais me contenter cette semaine à publier un dossier assez pesant qui, ça fait longtemps qu'il traîne dans mes informations. Donc, c'est peut-être pas de l'information qui est très fraîche pour le moment, mais qui est quand même d'actualité parce que ces réseaux-là continuent quand même d'opérer. Et c'est le dossier assez spécial qu'on appelle en anglais des Organ Gate. Donc, le scandale des organes, des prélèvements d'organes. Et ça semble assez lugubre comme sujet et assez incroyable, mais vous avez une quantité énorme de liens qui documentent tout ça qui a été admis même par l'État d'Israël et par plusieurs médias qui ont publié ces nouvelles-là, lors de quoi de très très sérieux. Il n'y a rien de diffamatoire là-dedans là, ou de capoté, là, je vous dis, c'est vraiment lugubre comme sujet. C'est quasiment glauque d'en parler sur une émission, je vous dis, ça fait quasiment bizarre d'en parler. Mais oui, il y a des réseaux de prélèvement d'organes et puis il y a des mafias et des criminels qui existent. Mais vous savez, la mafia israélienne et russe, qui souvent travaille ensemble, est extrêmement puissante. Et dans ce cas-ci, vous avez carrément un réseau de prélèvement d'organes qui a été mis à jour en Israël. Alors, il y a des organes qui ont été prélevés sur des Palestiniens, des personnes non consentantes. On a des docteurs qui ont été publiés ici dans le Guardian qui admet qu'Israël, des pathologistes israéliens ont prélevé des organes comme ça sans le consentement de personne. Ensuite, on a l'ancien chef du principal institut médico-légal israélien qui a reconnu que des organes avaient été prélevés sur des corps. Ça, on parle de Palestiniens qui ont été les victimes au cours des années 90 sans autorisation de famille de défunts. Il y a aussi le docteur Jihwa Hiss qui a fait ses déclarations dans le cadre d'un entretien accordé en 2000 à une universitaire américaine. Et Nancy Shepherd-Hough qui a décidé de ne le rendre public que maintenant en raison d'une controverse qui a éclaté l'été dernier à la suite d'un article de ce sujet. Alors, on parle d'un réseau assez incroyable là, qui se promenait comme ça. Et puis, là, vous avez des vidéos à aller voir, un paquet de documentation. Alors, oui, il y a des choses assez hallucinantes qui se passent. Et puis, bon, c'est pas juste en Israël, là. Il y a toutes sortes de pays aussi qui s'y adonnent. Vous savez, en Chine, là, il y avait de quoi assez d'incroyable où on prélevait des organes sur des condamnés à mort, alors des prisonniers. Et puis, on les mettait à mort et puis on prélevait les organes. Et puis, vous avez ensuite des personnes bien nanties de nos pays, donc le Canada, l'Australie, la France, qui s'en vont dans des hôpitaux spécialisés en Chine. Et puis, après ça, on les greffe avec ces organes. Alors, il y a des affaires assez écœurantes qui se passent. Excusez-moi le mot, là, mais c'est des choses qu'il faut quand même comprendre là, puis comprendre objectivement là, je veux dire, c'est il faut mettre la lumière sur ces trucs-là pour que ça arrête là, parce que c'est assez épeurant d'entendre parler des affaires comme ça, et puis évidemment que faudrait que ça cesse dans le genre immédiatement. Alors bon, ben on va arrêter là pour la pause musicale, et puis après ça on va poursuivre avec l'Afghanistan. J'aimerais bien parler de l'Afghanistan. Et ensuite, il va avoir, on va parler de l'économie. Puis je pense que ça va être déjà pas mal pour l'émission. On verra si on a le temps de toucher à l'économie. J'aimerais bien ça, mais sinon, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, voilà pour la musique. C'est de retour à l'autre monde, François Marchand au micro. On va faire un petit topo de l'Afghanistan avant de sauter dans l'actualité. On va essayer de faire ce qu'on peut. Il nous reste environ 45 minutes. Donc, on va y aller tout de suite. On va y aller, comme je disais, avec l'Afghanistan où il se passe énormément de choses, dont la dernière offensive. Une dernière offensive qu'on dit pour essayer de déstabiliser les talibans et puis reprendre les pouvoirs et aussi les territoires que les talibans occupent et contrôlent un peu partout en Afghanistan. On est même rendu dans les banlieues de la capitale. Alors, vous savez, ce qui se passe là-bas est assez décourageant. C'est une guerre qui est perdue depuis on sait longtemps, qui a été même affirmée comme telle par des militaires et des généraux qui ont été sur le terrain là-bas. Et puis, vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de, comme je vous dis, d'experts, de militaires, de commandants qui ont déclaré que c'était déjà une guerre perdue. Évidemment, c'est une guerre perdue parce qu'on l'a commencé avec des faux motifs et des mensonges. Donc, ça, c'est très important à tout le temps avoir en tête. Et puis là, ben, on voit cette guerre en Afghanistan qui s'étend maintenant à une période de temps qui est plus longue que la guerre du Vietnam et plus longue que la Deuxième Guerre mondiale au complet. Alors, vous comprenez là que ce qui s'y passe n'est vraiment pas normal et puis s'étend en longueur. C'est une guerre semi-privée, donc qui profite énormément aux contracteurs privés et puis aux compagnies de mercenaires privés de sécurité comme Blackwater, Dyncorp et toute la compagnie. Ce qui se passe là-bas, c'est qu'on a lancé une offensive il y a environ 3 semaines, si je ne m'abuse, environ ça. Vous allez avoir plusieurs articles à aller voir, comme d'habitude, sur les nouvelles internationales. Vous avez un ici, un article qui vient de Global Research et qui parle justement de cette nouvelle attaque massive en Afghanistan qui a été déclenchée par l'OTAN dans les villes, dans la ville de Marjah. Et ça se trouve être dans la province du Helmand. Et là, vous avez des commandants militaires et puis les médias qui ont ouvertement comparé les opérations de novembre 2004, où on avait eu le siège de Fallujah en Irak, qui avait été une des scènes de crimes les plus sanglantes de toute la guerre en Irak, où on a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Je parle, l'armée américaine et puis les forces alliées qui ont utilisé des armes chimiques comme le phosphore blanc sur les populations civiles. On a tué un nombre incalculable de civils, puis on a détruit, on a décimé le 2/3 de la ville. Donc, ça, c'est des choses qui se sont passées, qui ont déroulé, en fait, se sont dépassées. Le truc à Fallujah, ça s'est déclenché à cause qu'à un moment donné, les gens qui habitaient à Fallujah étaient vraiment, écoutez, désillusionnés de ce qui était la guerre de libération des États-Unis, qui se sont aperçus que c'était finalement une guerre d'occupation de leur pays. Ces mercenaires privés qui sont au-dessus de la loi, qui ne répondent pas aux codes de la guerre, aux traités internationaux, et tire partout sur la foule, même pour s'amuser. Vous avez des vidéos qui existent sur Internet où vous pouvez voir de ces mercenaires qui circulent dans les villes à bord de Jeep et puis on tire sur la ville carrément, on tire sur des voitures et puis sur des gens. Et vous entendez les gens, les soldats, c'est des soldats, des mercenaires privés qui rient et puis se bidonnent énormément en créant des chaos comme ça dans la ville. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que les gens de Fallujah avaient tué, je crois que c'était 2 ou 3 de ces personnages de Blackwater. On les avait pendus à des ponts et puis on les avait brûlés. Donc, des scènes qui avaient fait le tour du monde et qui avaient quand même scandalisé pas mal l'opinion publique, mais qu'on explique tout le temps mal, à savoir d'où vient cette rage incroyable. Évidemment, on est allé détruire leur pays et on tue leurs enfants, leurs familles, et puis on largue des bombes partout, on pollue le pays à l'uranium appauvri qui est radioactif pour des milliards d'années. Et là, on a comparé ouvertement cette offensive à Marjah qui a impliqué 15 000 troupes et qui était pour être d'une durée de quelques jours seulement. On disait qu'on était pour prendre contrôle très rapidement de la ville, une ville qui habite 80 000 personnes et qui est reconnue pour étant un bastion taliban. Un total de 125 000 personnes qui vivent autour de Marjah et à Marjah, qui est une ville d'agriculture qui est à environ à 350 000 de Kaboul. Alors, ça fait environ 500 kilomètres, ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que vous avez la population qui a grandi dans cette ville-là, des Afghans qui ont quitté, qui ont fui les villages occupés par les US Marines de l'été passé, suivant l'ordre du président de Barack Obama, d'envoyer 21 000 troupes de plus en Afghanistan. Alors, les Marines, qui sont frustrés et puis enragés, par le nombre de victimes dans le rang qui continue d'augmenter. On a franchi d'ailleurs le cap officiellement du premier millier de soldats américains qui sont décédés en Afghanistan. Évidemment qu'on suspecte les chiffres d'être beaucoup plus élevés parce qu'on ne compte pas les soldats qui sont évacués la minute près. Donc, si le soldat meurt dans l'avion en direction d'un hôpital en Allemagne, aux États-Unis, il n'est pas calculé. Donc, vous comprenez que, évidemment, les chiffres sont truqués. Le chiffre officiel, c'est de 1 000 soldats morts. Et puis, les soldats et puis l'armée américaine sont évidemment très frustrés de ça, surtout qu'ils ne sont pas capables de retrouver ceux qui les attaquent parce qu'ils se mêlent dans la population locale qui les protège aussi parce qu'ils sont bien conscients. C'est cette population afghane que leur pays est sous occupation militaire et puis qu'on n'est pas là pour les sauver, ni pour les aider, ni pour établir la liberté, la démocratie ou quoi que ce soit. Okay? On est là pour occuper ces territoires-là parce qu'ils sont géostratégiquement importants pour couper les lignes de pétrole de ravitaillement vers la Chine, de passer les siennes de la mer Caspienne vers l'océan Indien pour prendre contrôle du corridor de transport du pétrole. L'Afghanistan qui est devenu le premier producteur d'opium dans le monde. Depuis qu'on est rentré là, on est passé de 5% que les talibans avaient réduit au total la production d'opium dans leur pays à 95% de la production d'opium mondiale. Okay? Donc, c'est un marché lucratif de plusieurs centaines de milliards de dollars qui est acheminé vers l'Europe de l'Est à travers les pays comme le Kosovo qui a été créé à cet effet. Auquel on a remis le pouvoir au Calais, ou le Calais qui est une organisation terroriste reconnue par Interpol, dont le président est cherché par Interpol pour trafic d'armes et puis de stupéfiants. Alors, vous comprenez un peu l'histoire assez incroyable maintenant. Puis vous avez un camp américain militaire qui s'appelle Cambon Steel qui existe là-bas. Et puis toute la drogue, une grande partie de la drogue qui est cultivée en Afghanistan traverse vers l'Europe via ces corridors de mafia qui contrôlent l'armement et puis la drogue. Donc, un marché extrêmement lucratif. Et puis, c'est évidemment cet argent-là qui est récolté, comme toujours, par les opérations de la CIA et qui servent à financer des opérations, ce qu'on appelle en anglais des black operations, donc des opérations qui sont en dehors des livres officiels de déstabilisation des pays comme en Iran, et puis on achète l'opposition et puis la résistance armée en Irak pour pas qu'elle n'attaque les forces américaines. Alors voilà, donc on a parti cette grosse offensive en Afghanistan. On a déclaré qu'on était là pour rester et puis qu'il était pour avoir probablement des morts. Et puis c'est clair que c'est ça qui est arrivé. On a eu plusieurs civils, plusieurs victimes civiles qui sont mortes. Vous allez voir les nouvelles dont je vais vous parler un peu plus loin. Donc écoutez, ce qui est à retenir ici, c'est que c'est une opération, un exercice très vicieux. De punition collective contre la population qui s'était passée à Fallujah. Et puis, ce qui va se passer en Afghanistan revient à peu près à la même affaire, surtout que dans les médias et puis au niveau militaire, on a voulu comparer les deux. Je retrouve les chiffres ici, c'est 4 mercenaires de Blackwater qui avaient été tués à Fallujah. Alors, cet exemple-là de Fallujah, c'est ce qui a réellement créé l'exemple par excellence de la criminalité de cette entière guerre en Irak. Et puis, qui a été caractérisé par de multiples et très grossières violations de la loi internationale et de la loi de guerre. Et Fallujah en est un exemple brillant. Et ce qui est en train de se passer en Afghanistan va en être un autre aussi. Ça, c'est absolument certain. Et puis, c'est à garder à l'œil et à dénoncer ces choses-là pour que ce massacre, ce génocide de ces populations cesse immédiatement puis qu'on rapatrie nos troupes à la maison. En Afghanistan, même chose qu'en Irak, l'armée américaine voit une certaine valeur en faisant un exemple d'une population comme à Fallujah puis à Marja, qui sont des centres connus pour la résistance à l'occupation. Et on veut envoyer un message à la population entière de ces pays-là, en voulant leur dire, leur faire penser que toute résistance est futile et puis qu'elle sera contrée avec un massacre et puis la destruction. C'est réellement des opérations militaires qui ont aussi un impact sur la psyché d'un pays où on essaie de briser la volonté de résister de ces gens-là, de reprendre possession de leur pays, qui est clairement pas occupé pour des motivations bienveillantes. Il faut être très, très, très clair sur ça. Ça, c'est pour ça que je tenais à parler de l'Afghanistan, parce que c'est assez terrible ce qui se passe. Alors, vous allez trouver plusieurs nouvelles On parle ici dans une nouvelle de 12 Afghans civils qui ont été tués par les forces de l'OTAN. On en a un autre ici qui parle de 5 par une roquette de l'OTAN qui est tombée en Afghanistan. Ensuite, on a un autre ici, une attaque aérienne qui a tué 27 civils. Okay? Donc, imaginez que les Afghans arriveraient ici au Québec, puis ils largueraient des bombes sur Montréal et puis tuaient 27 personnes. Okay? Donc, incluant toujours des femmes et des enfants. C'est évidemment, c'est ça, je ne dis pas ça pour vous faire pleurer ou faire verser une larme. C'est ça, c'est la réalité. Okay? Il y a des enfants, des femmes, des hommes, aussi, tout être humain anyway, qui est innocent. Des civils, c'est un crime de guerre, OK? Donc là, arrêtez avec dommages collatéraux et puis avec vos justifications à la con, là, on va dire chaque personne qu'on tue là-bas est une personne pour rien. Jusqu'à date, ces attaques aériennes dans ces provinces du Helmand et puis du, comment ça s'appelle, Oruzgan, ont tué 60 personnes complètement innocentes, OK? Donc ça, c'est la triste version qu'on ne vous présente pas assez dans les médias et puis qui est pourtant une réalité. Ensuite, ici, on a l'OTAN qui a admis avoir tué un enfant de 8 ans par erreur. Alors, ben oui, une erreur, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait là? OK? Donc, on tue des enfants. Et puis, en réalité, ce qui est assez hallucinant, et puis c'est pas pour faire de la pédagogie ou pour faire n'importe quoi, là, ou de la manipulation sentimentale, mais on est en train de tuer plus d'enfants que de troupes ennemies. OK? On est en train de tuer plus de civils, pas on est en train de plus. Vous avez des chiffres qu'on a sortis dans une émission il y a plusieurs mois où on montrait que 95% des victimes en Afghanistan sont des civils et puis 5% sont des supposés ennemis, okay, des talibans. Donc pensez à ça 2 secondes. On a des sénateurs afghans qui ont demandé l'exécution de troupes étrangères pour avoir tué 21 innocents civils dans la province de Dainkunki. Il y a environ 2 semaines de ça. OK? Donc, vous allez voir à un moment donné les choses qui vont commencer à se corser pas mal. Peut-être qu'on aurait intérêt à supporter nos troupes, en les supportant, c'est les ramenant au pays. Donc, et puis, comme toutes ces aventures de malheur-là, ben, on a déclaré au début que cette nouvelle offensive était pour durer quelques jours seulement. Et puis, après ça, dans une autre nouvelle, whoop, on aperçoit que, oh, là, on avait mal calculé nos affaires. Parce qu'évidemment, on avait annoncé cette attaque quelques jours à l'avance, alors vous avez des milliers de talibans qui ont fui la ville. Alors on est arrivé là avec un tas de civils. Il restait presque plus de talibans là-dedans. Et puis là, on va être obligé de les poursuivre ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs, puis ailleurs. Hey, ou arrêtez là, arrêtez. L'armée soviétique, l'armée rouge est rentrée avec 500 000 hommes. N'a même pas été capable d'assurer le contrôle de l'Afghanistan. Alexandre le Grand a pas été, ça a été le dernier qui a été capable d'assurer le contrôle. On est là avec 150 000 troupes, puis on s'imagine quoi, là? On a un pays au complet à dos contre nous, parce qu'on n'est pas là pour les aider, on est là pour détruire et les maintenir dans un état qui va satisfaire les compagnies militaires privées, les compagnies de mercenaires, de sécurité, puis les compagnies pétrolières et des opérations de la CIA qui fait de l'argent par l'ordre de centaines de milliards de dollars avec les cultures de drogue et la vente d'armement. Parce qu'on arme aussi les talibans d'un bord, puis après ça, on dit qu'on les combat. On a plus de 400 à 700 bases militaires réparties sur le territoire afghan. Pensez-vous qu'on va quitter le pays demain matin? Pensez-vous que les Afghans soient négligents par rapport à qu'est-ce qu'on fait là? Imaginez que les Afghans ils seraient ici au Canada, puis il y aurait 400 bases militaires avec des jeeps qui circulent dans nos rues et puis des avions qui viennent bombarder le voisinage en tuant les familles, des amis, et puis vous comprenez, là? Alors là, évidemment que ça ne va pas se passer seulement en une journée. C'est une guerre qui va durer 100 ans, si on veut, là. Tant qu'on ne se retire pas là, c'est une guerre qui est déjà perdue. Alors, on a des nouvelles qui continuent d'être publiées, puis là, ben, on est passé d'une guerre, d'une offensive spéciale de quelques jours à quelques semaines, et puis là, ben, vous avez un général qui vient de sortir en disant que ben là, la poussée va durer quelques mois, là, finalement, on parle de 18 mois. Wow, wow! Bravo, bravo. Alors, allez voir les nouvelles. Vous avez l'Afghanistan qui a banni la couverture médiatique des attaques. Alors, on va détenir les journalistes qui vont enfreindre la loi. Qu'est-ce qui ressort d'une nouvelle comme ça? Ben, c'est à quel point ils sont désespérés que les gens voient clairement une guerre qui est perdue, Alors, on veut garder les mauvaises nouvelles du public en général, et puis on bannit les journalistes, un peu comme Israël avait fait dans son offensive dans la bande de Gaza. On a quelque chose à cacher. Right? Vous avez des scandales qui éclatent. Vous avez la compagnie Z, Blackwater, qui a les yeux sur un deal de 1 milliard de dollars. Quand je vous dis que c'est des gangs qui sont privés et puis qui profitent au secteur privé. Donc, on se retrouve avec une oligarchie. OK? Vous vous retrouvez avec un pouvoir capitaliste à fond des compagnies pétrolières, des compagnies de sécurité, des compagnies, vous les nommez, de mercenaires privés, d'armement, de complexes militaro-industriels qui fait du profit quand il y a des guerres, parce que c'est là qu'on vend de leurs produits, c'est là qu'on consomme de leurs produits. Alors, ces gens-là ont pris possession de ces guerres-là pour leur profit, et puis en plus, ça coûte de l'argent. Nous, il faut payer pour ces affaires-là. Et puis là, vous voyez des deals comme ça que le Pentagone va signer avec Blackwater de 1 milliard de dollars pour entraîner les forces nationales de la police de l'Afghanistan, pour entraîner l'aviation, la logistique et puis des gardes de sécurité. Ces mêmes gens-là de Blackwater qui ont été accusés formellement d'avoir tué des Irakiens civils il y a quelques années dans une intersection. On a ouvert le feu. Pouf, comme ça, dans une intersection, on a tué, je crois, c'est 16-17 Irakiens. N'ont jamais été traînés en cour pour ça. Tout le temps passé à travers les gouttes. Ensuite, un autre article qui vient d'un top US Intel Officer, okay, un officier d'intelligence au plus haut niveau aux États-Unis, qui déclare quoi? Ben, qui déclare que l'insurgence afghane, la résistance afghane peut se maintenir et puis se redéployer, se régénérer. De façon indéfinie. Une guerre qui est perdue. Ça fait longtemps qu'elle est perdue. L'Union soviétique a dû quitter le pays, même avec 500 000 hommes. Une autre nouvelle ici qui parle d'un enfant qui a été tiré alors qu'il était menotté par les troupes américaines. C'est beau. C'est beau. Le gouvernement afghan qui a demandé l'arrestation des death squads américains. Qui ont justement exécuté cet enfant de 8 ans alors qu'il était menotté. Vous avez des vidéos, allez voir de ça. Ça s'est passé. C'est documenté. Un drone américain qui a lancé un missile dans une foule de suspects. Des suspects. Tuant 13 Afghans. Des suspects. Après ça, on se demande pourquoi on radicalise ces pays-là. Qu'on radicalise ces personnes-là, pourquoi après ça sont prêtes à commettre des actes de terrorisme, des actes de terreur pour tuer de nos soldats, de tuer de nos populations. On se demande pourquoi. Des statistiques ici, on parle qu'on a 104 000 contracteurs du département de la défense en Afghanistan. Un article de Uruknet. Ça, c'est basé sur un rapport du Congressional Research Service. Alors, on dit qu'après la dernière invasion, la dernière montée du nombre de troupes en Afghanistan, de 30 000 troupes que M. Barack Obama a envoyées, qu'il y a aussi une montée, une addition de 56 000 contracteurs privés additionnels qui ont été déployés en Afghanistan. Il y a un autre groupe de contracteurs qui est souvent peu mentionné, et puis c'est les contracteurs du département d'État qui en comptent 3 600, et puis 14 000 contracteurs de la USAID, hein, la USAID qui s'est déployée et puis qui a pris contrôle de l'île d'Haïti, d'ailleurs. Ça veut dire que le nombre total de forces américaines présentement en Afghanistan est d'environ 189 000. Alors, on a environ 68 000 troupes américaines et 121 000 contracteurs privés. Il y a quasiment deux fois plus de contracteurs privés que de soldats. Selon un monsieur qui s'appelle McCaskill, ceci est un estimé conservateur, OK? C'est-à-dire que les chiffres risquent d'augmenter et puis on risque de voir jusqu'à 220 000 personnels américains sur le sol en Afghanistan d'ici l'année prochaine. Okay. Pour une guerre qui coûte combien de la minute? Eh bien, en ce moment, en Afghanistan, les États-Unis dépensent 57 077 dollars et 60 sous de la minute. excusez-moi de mes propos, de la façon que je vous livre l'information, mais je veux dire, c'est assez dur d'être impassible et puis être froid d'informations comme ça. Je veux dire, c'est quand on se rend compte de l'envergure de ce qui se passe en Afghanistan. Vous en conviendrez avec moi, je l'espère. Alors, on continue avec ces dernières nouvelles-là. Le gouvernement de la Hollande s'est effondré d'ailleurs dû à des désaccords sur la durée de temps et puis si on devrait donner de l'extension à la durée de temps que les troupes hollandaises étaient déployées en Afghanistan. Alors, on a eu des luttes de différents groupes politiques et puis ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement s'est effondré suite à ça. Alors, voilà. Voilà un peu une bonne nouvelle, et puis qu'on espère qu'il va continuer de se propager. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des pays se retirer. On avait eu une vague il y a environ quelques années de pays qui s'étaient retirés. Et puis là, il reste un certain noyau, et puis là, on est en train de voir que ce noyau-là est en train de se fissurer. Et puis tant mieux, puis il faudrait que, si on se respecte en tant que Québécois et Canadiens, eh bien qu'on fasse tomber le gouvernement ici aussi pour qu'on cesse de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Auxquels on participe, on a les mains pleines de sang, qu'on finance avec nos impôts. On finance une occupation militaire illégale et immorale d'un pays. Il n'y a pas d'autres mots à mettre là-dessus. Si les mots ne sont pas capables d'être prononcés dans les médias de masse, bien, bienvenue ici à l'autre monde. Pour le temps qu'on va être capable d'être en onde, on va les dire les choses telles qu'elles sont. C'est ça, dire la vérité, c'est ça devenir un acte révolutionnaire, bien, si soit-il. Si vous avez peur d'entendre la vérité, ben changez de canal. Faites juste décrire la vérité telle qu'elle est, OK? Il n'y a pas de rien de révolutionnaire là-dedans, c'est juste de dire les choses telles qu'elles sont. C'est rendu qu'on est rendu peureux, on change de canal, on n'est pas capable d'affronter la réalité telle qu'elle est. On participe à des crimes de guerre, on tue des civils. Nos petits Québécois de la base de Valcartier puis tout, ils se font canarder là-bas, ils reviennent dans des cercueils. C'est pas drôle. Parlez-en aux familles. Des guerres complètement inutiles, ça n'a aucun astic de bon sens. Qu'est-ce que Harper fait? Il ferme le Parlement. Il ferme le Parlement parce qu'il ne veut pas que son gouvernement tombe. Gouvernement corrompu à l'os. Donc, c'est ça pour les nouvelles de l'Afghanistan. On va y aller avec l'actualité. Essayez de se calmer les neurones, quoi, vous allez voir que les nouvelles sont assez élevées là aussi. Premièrement, vous avez entendu parler de ce gros tremblement de terre de 8,8 sur l'échelle de Richter au Chili. Très, très gros tremblement de terre. La raison de ça, si vous n'avez pas entendu parler, c'est que toute la plaque tectonique qui est sous le Pacifique est en train de se réajuster. Alors, depuis au moins une année, si vous regardez les cartes, vous avez des cartes d'organisation sismique, okay, qui mesure toutes ces tremblements de terre et puis les répertories. Puis là, vous avez tous les petits cercles où vous voyez les tremblements de terre. Donc, vous allez voir que le long de la faille des deux côtés de la grande plaque tectonique du Pacifique, il y a des tremblements de terre multiples, très fréquents de ce temps-ci et puis d'envergure. Okay? Donc, on se rappelle celui qu'il y avait eu aussi en Indonésie. À Taïwan, ce matin, on en a eu un de 6,4. Okay? Vous avez eu Haïti. Et puis, vous pouvez vous attendre encore plus. La plaque tectonique est en train de se réajuster. Et puis, un autre truc assez préoccupant, c'est le super volcan qui se trouve à Yellowstone, aux États-Unis. Donc, c'est un parc national aux États-Unis qui ressemble à un grand cratère, un grand désert, sauf qu'il cache une masse de magma incroyable, okay, d'une quantité assez faramineuse et qu'on classe comme étant des super volcans, c'est-à-dire que quand ils explosent, ben c'est une partie de la croûte terrestre qui vole dans les airs et puis ça crée une catastrophe environnementale globale. Ouais, ça s'est déjà passé dans l'histoire géologique de la planète et puis on sait ce qui se passe et puis on a répertorié les effets et puis c'est assez pour éliminer pas mal toute la population de la côte ouest américaine. On ne dit pas ça là, pour faire épeurer les gens, là, mais c'est des choses qui existent, là. Encore là, on dit les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui est ça. Okay? Ça ne veut pas dire que ça va exploser. Ça peut exploser dans 1 000 ans, ça peut exploser demain matin, on ne le sait pas. N'importe quoi peut arriver, anyway. Il y a rien de permanent. Donc, on s'enlève ça de la tête, là. C'est pas pour faire du sensationnalisme ou quoi que ce soit. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a évidemment des censeurs qui sont tout le tour de ce truc-là pour le suivre, OK, de jour en jour. Et puis, on a des rapports sismiques qui, dans les derniers jours, on a mesuré plus de 1270 petits tremblements de terre qui ont frappé le parc de Yellowstone. Vous en avez eu à peu près une douzaine qui ont eu des magnitudes de 3,0 jusqu'à 3,8, mais la plupart sont tellement petits qu'ils ne sont même pas perceptibles. C'est un peu comme ici à Taïwan. On a eu un de 6,4 à matin, mais il y en a 3 500 par année des tremblements de terre à Taïwan. Donc, c'est clair qu'on ne les sent pas toutes. Hein, on en sent quelques-uns, peut-être un ou à peu près quelques mois. Donc, ici, un tremblement de terre, c'est de quoi de très commun, là. Il n'y a rien de bien spécial. C'est un peu comme un event, là. Hein? Ça, c'est de quoi à surveiller aussi. Donc, vous allez voir de plus en plus d'activités sismiques au travers des îles japonaises et puis courant vers le sud à travers la Malaisie, la Nouvelle-Guinée, les îles Fidji, puis jusqu'à la Nouvelle-Zélande, et puis de l'Amérique du Sud, et puis jusque possiblement en Amérique du Nord aussi sur la côte ouest. Hein, aussi, vous avez la grande faille de San Andreas que tout le monde connaît. Avec San Francisco qui est pointé pas mal sur le jus, disons. Donc ça va être à surveiller. Donc pourquoi? Ben parce qu'évidemment que ça pourrait créer certaines pressions sur la grande chambre de Yellowstone, la grande chambre de magma qui s'y trouve. Et puis ça pourrait faire en sorte que ça pourrait faire, si vous voulez, un certain effet, un peu comme un verre de Pepsi chaud. Qu'on secoue, vous avez le gaz carbonique qui tout d'un coup là, se met à sortir rapidement du liquide. Alors, la même affaire dans la croûte terrestre, il y a beaucoup de gaz carbonique. Alors, ce qui pourrait arriver, c'est qu'en donnant des ondes de choc à cette grande chambre de magma-là, ça pourrait secouer beaucoup de gaz de CO2 et puis créer peut-être de quoi de dévastateur à la surface. Alors, c'est de quoi à surveiller, comme je vous dis. Ensuite, il y a un article à aller voir que j'ai publié sur les nouvelles internationales et les 7 du Québec et sans papier d'ailleurs qui est en train d'essayer de se marier avec les 7 du Québec. Donc, on est en train de faire un essai. Donc, je vous encourage à aller visiter aussi sans papier qui est une très belle et puis la première plateforme de citoyens journalistes au Québec et puis qui est en contact avec tout le réseau francophone aussi en France et puis en Belgique et ailleurs dans le monde. Alors, superbe place pour aller voir vos nouvelles aussi puis lire des nouvelles différentes que sur les médias de masse et où vous allez retrouver la colonne d'ailleurs de tous les articles qui sont produits par les auteurs des 7 du Québec. Alors, cette semaine, j'ai produit un article qui s'appelle Canada incorporé et la taxation à mort pour votre sécurité. Alors, je vous invite à aller lire cet article-là. Je vais essayer de le passer un peu rapidement parce qu'il y a beaucoup de nouvelles importantes. Sauf qu'il est important de réaliser qu'il existe un problème conceptuel d'envergure lorsqu'on parle du Canada et de l'économie, des lois et puis du fonctionnement général, ainsi que de la place que nous y occupons et le rôle que nous jouons dans cette machine. Et vous allez trouver une image, et puis vous allez pouvoir cliquer aussi sur un lien pour vous rendre sur la US Securities and Exchange Commission, la SEC aux États-Unis, sur laquelle vous allez trouver la compagnie Canada en lettres majuscules qui s'y trouve, quoi. Et d'une autre réalité, vous avez de quoi qui est très important au niveau légal à comprendre, c'est qu'il y a deux mondes. Et puis il y a le monde des personnes réelles en chair et en os, les individus comme vous et moi, et puis il y a le monde légal, des fictions légales, qui sont des corporations comme le gouvernement, et puis toutes sortes d'affaires comme ça. Et il se trouve que le gouvernement est une corporation, OK? Et puis, étant que corporation, elle peut aussi transiger sur la SEC. Bon, pour d'autres raisons aussi qu'on va vous dire, pour échanger des instruments financiers, donc je suis d'accord avec ça. Mais le fait que aussi le Canada soit écrit en lettres capitales montre que c'est une fiction corporation. C'est une corporation, c'est une compagnie, une société privée. OK? Vous devez comprendre ça. Donc, allez lire l'article et puis allez comprendre un peu plus de quoi qu'il en retourne et voir comment qu'on va vous taxer à mort aussi pour n'importe quelle décision. Et puis, dans ce cas-ci, ben, je parle des taxes qu'on va monter sur les voyageurs dans les aéroports parce que là, le gouvernement canadien va dépenser 1,5 milliard de dollars pour acheter ces fameux scanners corporels pornographiques qui servent absolument à rien parce que vous savez que On veut installer ces scanners-là en réponse à l'acte, le pseudo-acte de terrorisme d'Abdul Muttalab le jour de Noël passé, et qui est passé à Schiphol, à Amsterdam, dans un de ces scanners corporels, et puis on ne l'a pas détecté. Ah ah! Alors, on veut nous installer des machines qui ne servent à rien, qui nous coûtent un bras. Alors, on va demander aux voyageurs de débourser 2,50 de plus pour un vol simple au Canada, 4,30 pour un vol international et 8,91 pour un vol international. Ces nouvelles taxes devraient entrer en vigueur le 1er avril si le Parlement les approuve. Et le ministre des Transports, John Baird, hypocrite comme il est, il a déclaré qu'il s'agissait de frais d'utilisation et non pas d'une taxe. C'est comme ça qu'on a peur d'un mot, hein, vous savez. Donc, c'est pas une taxe, c'est une taxe. Hein? Donc, on va venir siphonner encore plus d'argent dans votre poche, mais c'est pas une taxe. Ne vous comptez pas d'histoire, là, ça va tuer encore un peu plus l'industrie du tourisme qui est déjà pas mal affaiblie, puis les compagnies aériennes aussi, qui sont déjà en mode survie elles aussi. Il y a Norm Payne, un consultant pour Uniglobe Travel, qui a expliqué que si vous prenez un vol d'ici vers Londres ce soir, le billet est de 764 $. Les taxes sont de 394 $, puis si on ajoute le 8 ou 10 $ pour la taxe de sécurité, eh bien cela signifie que la moitié du prix du billet est en taxes. Hein, c'est comme ça qu'on vient comme un vampire vous siphonner jusqu'à temps que vous n'avez plus de sang. Donc, le ministre Bird insiste que ces nouvelles mesures viennent en réponse à l'attentat de Noël par Oumar Farouk Abdulmoutallab et sont qualifiées de nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs. Je me sens tellement plus en sécurité, monsieur Bird. C'est wow, c'est fantastique. Toutes les conclusions sont bonnes pour Canada incorporé pour vous taxer à mort et vous imposer une quantité de grandissantes de lois, de statuts, hein, qui sont en réalité passés pour des lois, qui sont liberticides. Parce que ce qui est bon pour cette société privée, ce n'est pas votre bien commun, chers auditeurs, mais c'est son profit personnel à vos dépens. Donc, un article important à les lire. Il y a la police en Angleterre qu'on apprend ici dans une autre nouvelle qui a promis de ne pas garder ces échantillons d'ADN dont je parle depuis quelques semaines. Alors, on s'aperçoit que, oups, et voilà, eh oui, on fait ça aussi en Angleterre. On a promis de ne pas garder cet ADN, mais on le fait de toute façon. Alors, vous avez un article ici qui détaille une histoire d'une personne qui a deux policiers à sa maison et puis qui a volontairement donné son ADN et puis ses empreintes digitales. Bon, allez savoir pourquoi que cette personne a fait là. OK, c'était pour une enquête sur un meurtre et puis que les policiers lui ont promis de ne garder cet ADN et puis ses empreintes digitales que pour la durée de l'enquête. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a gardé ces échantillons et puis on les a gardés pour résoudre d'autres cas futurs, peut-être d'enquête ou quoi que ce soit. Alors, c'est assez spécial. Et puis, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue que il est encore plus facile de mettre des fausses évidences d'ADN sur une scène de crime que de faire des faux d'empreintes digitales, mais qui peut quand même être faite assez rapidement et assez facilement. Alors, dans un âge dans lequel on vit, dans une ère dans laquelle on vit, il n'est peut-être pas conseillé de coopérer avec la police sur quoi que ce soit qui concerne de l'ADN, parce que vous allez voir que ces gens-là, même s'ils vous donnent des garanties qu'ils ne les garderont pas, les gardent pareil. C'est ça qu'on s'est aperçu dans les nouvelles de la semaine passée aussi aux États-Unis. Il y a un article qui a été publié ici par le New York Times. Et on apprend que dans cet article-là, que certaines personnes sont surveillées, que de 2004 à 2009, la police avait complètement sorti hors de tout contrôle. Okay? La police de New York s'est mise à arrêter de plus en plus de personnes dans les rues de la ville. Et on parle dans cette période d'environ 3 millions d'arrestations, okay? 3 millions d'arrestations de fouilles qui ont été bien souvent très humiliante pour plusieurs de ces personnes qui ont été fouillées. Et plus de 90% des personnes qui ont été arrêtées étaient des personnes qui étaient complètement innocentes de quoi que ce soit. Et comme ce n'était pas déjà assez révoltant, on apprend que non seulement ces politiques-là sont complètement hors de contrôle, mais qu'en plus, elles sont empreintes d'un racisme assez incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans les statistiques du département de la police que presque 3 millions d'arrestations qui ont été faites, le chiffre exact, c'est 2 698 461 arrêts qui ont été faits sur une période de 6 ans total. Il y en a 2 467 150 qui ont été faits sur des personnes qui ont absolument rien fait. Donc, on parle de 88% de toutes les arrestations qui ont été faites sur 6 ans pour rien. De ce chiffre-là, les Noirs qui ont été arrêtés, 1 444 559 fois. Et puis, les Latinos ont été arrêtés pour 843 817 fois, alors que les Blancs ont été arrêtés qu'un petit maigre 285 218 fois. Oh oh! Problem, problem! Alors, voilà comment que j'avais déjà parlé d'ici aussi aux États-Unis, comment que la ségrégation et puis le racisme est loin d'avoir disparu, très très loin. Il s'y passe des choses assez incroyables. Et vous savez, l'espionnage des Américains est devenu une grosse business aux États-Unis. Et on a appris ça pourquoi? Ben, on a appris ça de John Young, qui est un architecte qui travaille sur un projet qui s'appelle Cryptome, okay? Qui est un site Internet qui est un peu comme WikiLeaks, si vous connaissez, sur lequel on peut trouver des trucs de personnes qui bon, fait fuir de l'information qui n'est pas censée être publiée. Okay? Donc, c'est un peu... on pourrait appeler ça une certaine centrale du renseignement public pour nous, pour aller surveiller, pour assurer une transparence de l'élite, de nos gouvernements et puis de ce qui se passe. Okay? Donc, des sites absolument cruciaux, très importants pour la liberté et puis, je dirais, la défense de nos droits à savoir ce qui se passe. Okay? Droit à l'information, droit à la transparence de nos institutions démocratiques. De nos institutions gouvernementales, financières et militaires, et pourquoi pas commerciales aussi. Hein? Alors, ce qui est arrivé, d'ailleurs, en parlant de commercial, c'est que Cryptome a publié un document sur les politiques d'espionnage de Microsoft sur ses clients. Alors, évidemment que Microsoft n'a pas vraiment aimé ça, et puis a mal réagi, et puis a fait fermer le site Cryptome d'une shot. Et puis, des fois, ces gens-là ne calculent pas très bien leur mouvement et puis créent des tempêtes de relations publiques assez importantes. Et puis, il y a eu un backlash assez important de la communauté Internet et puis internationale aussi, de la communauté publique. Et ce qui est arrivé, c'est que Microsoft n'a pas paru très, très bien là-dessus. Donc, on a renversé cette décision-là. Et puis, Cryptome a rouvert ses portes et puis existe encore. Et puis, vous pouvez vous y rendre et puis encourager ce site, évidemment. Vous allez trouver une vidéo aussi avec Alex Jones qui l'a interviewé où on apprend que, oui, l'espionnage sur les populations, dont les Américains, mais n'allez pas penser qu'en France ou au Québec, au Canada, on est différent de ça. Les compagnies profitent de ça. Donc, Microsoft, IBM, Yahoo, Google, on profite de tout ce qu'on ramasse comme information sur vous. OK? Et puis, c'est très payant. Donc, là, vous avez une machine qui est en train de se revirer contre vous, là, puis il est temps qu'on s'en rende compte. OK? Donc, il y a une autre nouvelle ici qui a été publiée par The Guardian qui parle des téléphones cellulaires qui permettent à ces compagnies-là de surveiller toutes vos allées et venues en temps réel. On sait tout sur vous. ABC News va fermer tous ses bureaux, à part ceux dans la capitale, à Washington, aux États-Unis. Ça va pas bien pour les grands médias. L'Internet est en train de prendre le dessus sur les nouvelles imprimées. Ça, c'est de quoi qui est déjà accompli aux États-Unis puis en Angleterre. Alors, vous voyez que ces grands médias-là qui vous ont menti à propos des guerres en Afghanistan, des guerres en Irak, qui vous mentent à propos du 9-1, qui vous mentent à propos de la crise économique, qui vous mentent à propos de tout... Ben, ils sont en train de piquer du nez. Pourquoi? Ben, parce que les gens arrêtent de consommer leurs produits. Donc, les grands publicitaires cessent de leur donner de l'argent. Alors, ces journaux-là sont en train de faire faillite un peu partout. Et ben là, on est en train de vous dire que ben là, l'Internet est un danger. Hein? Donc, vous allez entendre de plus en plus de personnes, comme la National Security Agency, la NSA, qui dit que le gouvernement va essayer de se donner le potentiel de pouvoir... répondre à une attaque contre le gouvernement américain, même si ça pourrait être des critiques, des emails ou quoi que ce soit. Alors, on est en train de vouloir prendre contrôle de l'Internet. On est en train de vous dire que l'Internet est un champ de guerre, okay, sur lequel il va falloir assumer l'hégémonie aussi. On va mener une guerre contre l'Internet pour essayer de le détruire. Puis, ce qu'on est en train de vous dire, en réalité, c'est que ces autorités sont en train de perdre la cyberguerre, OK? Que l'Internet est maintenant le terrain de bataille pour la vérité. Et puis, que le gouvernement américain, gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement de la Grèce, gouvernement de tous les pays, et puis de tous les médias, sont en train de perdre leur habilité, leur potentiel, la possibilité de mentir au public pour avancer leur agenda. Vous avez l'effondrement du culte du réchauffement climatique, qui est un autre exemple de ce qui se passe. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles. Vous allez trouver des vidéos aussi de Mike Rivero qui parle sur le show d'Alex Jones, des médias qui sont en train de perdre toute leur crédibilité. Très intéressant à aller voir. Mike Rivero, qui est une de mes grandes sources de nouvelles ici, donc soyez très confiants quand vous allez tomber sur son site de trouver des nouvelles de qualité. On a une nouvelle ici qui parle que les Américains financent le terrorisme. Alors, ben oui, on finance Abdul Malek Ridji, qui appartient à un groupe qui s'appelle le Jundallah. On en a déjà parlé ici sur l'autre monde. Alors, ben oui, les Américains qui financent le terrorisme. Alors, c'est des sources du renseignement pakistanais et américain, où on a appris aussi sur le réseau de télévision ABC, reportant en 2007 que le groupe avait été encouragé et puis conseillé par des officiels américains pour déstabiliser le gouvernement de l'Iran. Le journaliste d'enquête Seymour Hersh en avait révélé aussi l'existence en juillet 2008, que aussi que M. Bush avait eu 400 millions de dollars pour armer et financer des groupes terroristes comme le Jundallah. Okay, pour financer des opérations de déstabilisation à l'intérieur de l'Iran, des actes de guerre. Eh oui, tout documenté, c'est fantastique. La CIA aussi qui a aidé des terroristes en Iran, comme je vous dis, c'est aussi la CIA qui est impliquée là-dedans, et des groupes terroristes sunnis qui sont évidemment contre l'Iran qui est chiite. Vous avez un documentaire britannique qui apporte encore plus d'évidence et de preuves de la collusion entre les États-Unis et le KLA, dont je vous parlais un peu plus tôt dans l'émission, hein, qui se sont mis au pouvoir durant la guerre que l'OTAN a menée au Kosovo. Alors, un documentaire anglais, allez voir. Le gouvernement ici qui admet qu'ils font des fausses attaques terroristes, des attaques sous faux pavillons. Okay, un article super intéressant, allez voir. La CIA qui a admis avoir engagé des Iraniens en 1950 pour se faire passer pour des communistes et puis bombarder, faire des attaques à la bombe en Iran pour donner le pays qui avait un gouvernement démocratiquement élu au chant d'Iran, un dictateur. Israël qui a admis qu'elle avait mis au point une cellule terroriste qui opérait en Égypte pour planter des bombes dans plusieurs buildings, incluant des installations diplomatiques américaines, et puis qui ont laissé derrière certaines évidences qui impliquaient des Arabes. Donc, une autre fausse attaque, hein? Ça a été admis par les Israéliens. Vous avez l'ancien président indonésien qui a admis que le gouvernement avait probablement un rôle dans l'attaque à la bombe à Bali. Vous avez l'ancien premier ministre italien et puis ancien juge italien et l'ancienne tête des services de contre-intelligence qui ont admis que l'OTAN, avec l'aide du Pentagone et la CIA, ont fait des attaques terroristes en Italie puis blâmé les communistes pour faire en sorte que les gens soient scandalisés puis qu'ils supportent les gouvernements en Europe qui combattaient contre le terrorisme, contre le communisme. Ça, c'est l'opération Gladio. Hein? Donc, il y en a comme ça un paquet. Allez voir, allez voir, allez voir, allez voir. GM qui a rappelé 1,3 million de Chevrolet de Pontiac. Oh, ah ben, regardons. Est-ce qu'on va assister comme un scandale comme l'affaire de Toyota? On va voir, là, c'est pas une compagnie américaine, donc c'est probablement que les médias vont être très biaisés et puis ne pas traiter la même affaire, la même situation de la même façon. Alors, on a Toyota qui, d'ailleurs, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous avez des peurs avec les voitures de Toyota, il faudrait peut-être se demander ce que Big Pharma fait, hein? Donc, si vous avez peur que Toyota tue des personnes, et qui d'ailleurs n'a pas tué personne jusqu'à date avec le contrôle de ses freins, eh bien, je veux dire, regardez un peu le nombre de personnes que les compagnies pharmaceutiques tuent. On parle de 270 personnes à chaque jour aux États-Unis seulement. 270 personnes aux États-Unis que Big Pharma tue avec ses médicaments. Alors, si on rappelle les voitures de Toyota, puis on en fait un gros scandale comme ça, il est où le scandale pour des compagnies qui tuent des Américains à tous les jours dans l'ordre de pas loin de 270, quelques centaines à chaque jour. Vous avez une mairie aux États-Unis qui veut payer une compagnie pour espionner ses citoyens et puis prendre des photos de haute résolution de leur propriété privée. Alors, on veut avoir ces photos-là pour pouvoir mieux taxer les personnes. Les téléphones cellulaires qui montrent qu'on peut savoir dans une certaineté de 93% des cas, savoir où sont les personnes exactement À quel moment? Il y a Apple qui a admis avoir utilisé des enfants comme force de travail pour construire les iPods puis les iPhones dans des manufactures chinoises. Alors ça a été publié sur The Daily Mail. Alors bravo à Apple. Bravo. Et puis une dernière chose à surveiller pour cette semaine, eh ben c'est aux États-Unis, vous avez McCain qui est en train de faire passer un projet de loi qui viendrait détruire les produits suppléments, les produits là, de vitamines, les produits naturels qu'on peut acheter dans les produits dans la section des produits naturels, OK? Alors, on veut rendre tous ces trucs-là, les plantes et puis les vitamines, illégales. Et puis, c'est la même affaire ici aux États-Unis, au Canada. C'est pour ça que je vais en parler. Vous avez un projet de loi qui s'appelle C-15, qui est temps qu'on comprenne et puis qu'on prenne conscience ce qui est en train de se passer, qui va instaurer des sentences minimum pour des infractions mineures comme, ben, comme fumer un joint, par exemple. OK? Alors, on est en train de criminaliser les produits naturels. On a demandé de les retirer des tablettes. Et puis là, on va introduire des lois qui sont comme aux États-Unis parce qu'évidemment, il faut harmoniser nos lois comme aux États-Unis, étant donné qu'on est en train de créer l'Union nord-américaine. Eh bien là, on va adopter ces lois de tolérance zéro qui font en sorte que les États-Unis se retrouvent avec une population carcérale qui totalise 25 % de la population carcérale mondiale, où on a des millions. 2 à 3 millions de prisonniers aux États-Unis qui sont utilisés dans plusieurs populations comme cheap labor, okay, qui travaillent à 5 et 10 cents de l'heure pour des grandes compagnies pour fabriquer des biens, un peu comme les camps de concentration de travail des camps de la Deuxième Guerre mondiale. Pas besoin de nommer ceux qui en sont responsables. On va se quitter là-dessus. C'était François Marginant pour L'Autre Monde. Gardez le moral, gardez le courage. L'important, c'est que l'information circule, on devienne plus conscient, qu'on devienne plus lucide, qu'on se protège mentalement. Et puis après ça, qu'on donne un gros coup de barre, qu'on expose ceux qui sont responsables de ces folies-là, les psychopathes qui sont à la tête d'un contrôle de notre société, qu'on retrouve notre humanité, qu'on mette des gens qui sont humains en place, puis qu'on réorganise un peu ce qui se passe autour de nous. All right. Bye-bye.